voudrais vous raconter l'histoire de l'énergie vitale, ou plutôt l'histoire d'un homme. Pourquoi danse-t-il dans sa petite cuisine comme si c'était le plus grand dance floor du monde? Qu'est-ce qui le traverse quand il se dérange comme un fou, avec dans une main une cuillère en bois et dans l'autre une banane? Qu'est-ce qui le met en joie? Quel est ce feu dans son corps, dans son cœur, dans ses muscles? Il danse dans sa cuisine et rien n'a d'importance. Il se laisse aller à la désarticulation pour mieux se rassembler. Le bas du corps part d'un côté et puis le haut d'un autre. Et puis tout le monde se retrouve pile au bon moment. Il n'est pas seul dans sa cuisine, il est sur le toit du monde, ou dans une ruelle espagnole, ou dans un club anglais plutôt, pas loin de Manchester. Il est partout où des corps bougent en rythme et où les sourires se répondent, même les yeux fermés. Mais d'où vient au fond son énergie? Cette énergie vitale que la musique réveille. Attendait-elle dans son corps que le bon beat, les bonnes paroles viennent la capter? Vient-elle simplement de son corps? N'est-ce pas plutôt son corps qui est en contact avec plus grand que lui, le monde et ses battements, ses rythmes naturels, le cosmos qui sait, la vie elle-même qui traverse tout le vivant? Danser, chanter, c'est exprimer quelque chose qui est en soi. Mais c'est aussi s'oublier, se perdre, se lâcher, au double sens de se lâcher. Premier sens, y aller à fond. Et puis, deuxième sens, se lâcher soi, oublier son ego, ses petites pensées, ne plus penser à rien. Sauf peut-être pour se dire que c'est bon, que c'est sacrément bon. D'après Bergson, cette énergie vitale est une énergie spirituelle qui court au cœur de la matière. Un élan créatif plus grand que nous, mais qui peut aussi nous traverser, avec lequel nous pouvons entrer en contact. Quel est le signe que nous entrons en contact avec cet élan vital? Ce signe est la joie, écrit Henri Bergson. La joie de vivre, tout simplement. C'est peut-être ce qui lui arrive dans sa cuisine, en plus de réussir ses crêpes. Il entre en contact avec la vie. Pour en parler ce matin, d'énergie vitale et de joie de vivre, mais aussi de créativité d'Alain Bachung ou de crêpes bretonnes, j'ai la joie de recevoir Hervé, le chanteur Hervé, révélation masculine aux dernières victoires de la musique. Hervé, dont la France entière commence à fredonner les tubes et qui nous a rejoint sous le soleil de Platon pour nous aider à répondre à cette belle question: qu'est-ce que l'élan vital?
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Hervé, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Ben, ça va bien, très très bien.
Trop sympa de vous recevoir. J'avoue que je suis un fan de la première heure, donc je suis très très heureux. Mais j'ai découvert simplement ce matin que vous vous appelez Hervé Le Sourd.
Oui,
ouais, c'est, ouais. C'est bon ça quand on est là. Ouais.
J'avais ça sur l'interphone, ouais, c'est le nom de ma maman. J'ai fait Hervé, c'était beaucoup plus simple. Hein.
Ouais. Alors, la question que j'ai posée dans cette petite chronique de lancement, c'est sur l'énergie vitale. C'est clair, vous avez une énergie de malade. Si je vous demande d'où elle vient, au fond, vous répondez quoi?
Je suis incapable d'y répondre en fait. Il y a vraiment, c'est ce que j'appelle le feu sacré quoi. Ouais. C'est-à-dire au moment où je compose mes musiques dans ma chambre à la maison, j'écoute le son très fort et j'ai énormément de sensations et j'ai le corps et la nuque qui bouge et sur scène c'est pareil. Et c'est difficile de l'expliquer. Je sais pas si c'est un mélange entre. Je crois que c'est de l'ordre de l'instinct et de l'incontrôlable, quoi.
Ouais. Instinct presque. Est-ce que vous pensez que c'est un rapport avec l'instinct de survie, quelque part?
Ah, complètement.
Ouais.
Complètement. Parce que c'est des moments, la scène, c'est pareil, je le vis à chaque fois comme si c'était, peut-être la dernière fois, finalement. Et j'ai le goût de toujours me mettre en retard. Je crois que j'aime l'adrénaline, quoi.
Ouais, c'est marrant. Alors, ce qu'on va faire, une émission un peu atypique. On va discuter tranquillement de votre parcours, de tous ces concerts qui s'annoncent, de vos paroles aussi, que je trouve que c'est des très belles paroles. Et c'est rare d'avoir des belles paroles comme ça, françaises, avec une musique électro. Il y en a, on en connaît, mais c'est assez rare. Voilà, si on écoute Daft Punk, il peut y avoir une seule phrase, c'est une chanson, Around the World, c'est une phrase. Et vous, il y a cette énergie comme ça électro, et puis il y a quelque chose d'un art français des paroles. Et ce que je vais faire pendant une heure, c'est que je vais vous soumettre différentes approches philosophiques de ce que c'est que l'énergie vitale, pour vous faire réagir. Notamment, on va commencer par celle de Bergson. Pour lui, l'énergie vitale, elle n'est pas tellement en nous, elle est plutôt hors de nous, et on capte ce truc qui est hors de nous.
Oui.
Est-ce que ça vous parle?
Ah, complètement. C'est ce que j'appelle le concept d'éponge. Ah ouais. Très vulgairement.
Non mais ça me paraît un bon concept.
C'est-à-dire que moi je vis un peu comme ça. Je vis pas comme une fleur avec sous les projecteurs. Je brille, je me sens bien et ensuite je fane. Mais j'ai plutôt, je vis un peu comme une éponge. Et ce qui me manquait beaucoup pendant cette période de pandémie, c'est-à-dire c'était d'aller en terrasse, d'aller dans la rue, d'aller dans un train, sur un quai de gare, et d'aller comme ça me gorger de discussions, de visages, d'attitudes. Et ensuite je vais en studio ou à la maison et j'éponge quoi.
Ah, c'est ça. Mais c'est ça. Et d'ailleurs, dans votre parcours, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un moment où le clubbing, quoi, vous a connecté au monde. Et c'est peut-être là que vous êtes devenu une éponge.
Oui, en fait, c'est vraiment cette sensation de d'être au contact des enceintes, des gens, et de sentir une atmosphère comme ça. Il y a de la magie là-dedans. Oui, complètement.
Ouais. Alors, on va écouter un petit extrait de Si bien du mal que j'adore vraiment.
On se fait si bien du mal, on fait si bien, on se fait si bien du mal. On se fait si bien du mal, on fait si bien, je crois que ça devient animal. Pourquoi tu te fais la mal quand je te fais du bien, quand tu fais du mal, tu reviens. Dis-moi si je te fais mal quand je te fais du bien.
Alors, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur ces paroles.
Oui.
C'est, comme je le disais tout à l'heure, moi je trouve assez rare d'avoir des paroles comme ça avec cette musique-là. Mm. Je reviens dessus, on se fait si bien du mal, on se fait si bien du mal, on se fait si bien du mal, on le fait si bien. Pourquoi tu te fais la mal quand je te veux du bien? Quand je te fais du mal, tu reviens. Dis-moi si je te fais mal quand je te fais du bien. Franchement, c'est excellent.
Merci.
Enfin, j'ai pas envie de dire ça. J'ai l'impression d'être un prof qui. Mais c'est très bien écrit. Et c'est venu d'un coup, par exemple, ou alors.
Ouais. En fait, c'est des notes. J'ai parfois des moments. Là, ça m'arrive un peu en ce moment. Où soit je me réveille la nuit, et pour peu que j'ai assez de force pour aller sur mon téléphone et écrire des petites phrases comme ça. Ouais. Et en fait, j'ai des jeux de mots qui me viennent un peu dans la vie, comme ça, hors contexte purement de composition, de production de chansons. Ouais. Et je les garde dans mon téléphone, et j'ai commencé à faire cette musique-là, et devait être, c'était assez tard la nuit dans cette maison, et j'ai eu la mélodie dans cette cuisine où je tournerai le clip après.
Ah oui, bien sûr, le clip du confinement.
Le clip du confinement.
Qui a carrément fait le buzz et qui était excellent.
Oui, j'ai vraiment encore le dictaphone avec la note en disant on se fait si bien du mal, on le fait si bien, je reste un animal. Et en fait, dans le flow, dans l'énergie de ce qu'on appelle un yaourt, c'est une espèce de français anglais comme ça qui vient, j'ai ce jeu de mots et puis je le développe et ça donne ce refrain-là.
Je prends un autre exemple de vos textes dans Va Piano, une chanson de 2017, je crois. Il n'y a pas de courage sans peur, je serre les dents, je serre les dents. Quand c'est le temps qui prend, je vais piano. Le passé vient frapper comme une gauche, je serre les dents. Le corps qui d'un coup se désaccorde, va piano. Toujours sourire, serre les dents. Ouais, resserre les dents. Toujours sourire, va piano. Ouais, ouais, va piano, va piano. C'est très beau. D'ailleurs, on voit aussi que il y a un truc d'hypersensibilité en vous. Mm-hmm. Et que on est presque dans un fight, dans une sorte de lutte.
Oui.
C'est-à-dire qu'on est tout le temps dans un balancement comme ça. Il y a des moments où ça tombe du mauvais côté?
Oui, ouais. Il y a parfois où l'éponge est gorgée, disons.
Ouais.
Donc j'ai besoin de mes prisons, j'ai besoin de solitude aussi, et j'ai besoin de retrouver les choses qui me font du bien, que je connais bien. Je reviens souvent, ça m'est arrivé pas mal pendant le confinement, et puis très souvent en fait dans la vie, il faut que je retombe, il faut qu'à un moment je retombe sur mes pattes, parce que la météo change très souvent en moi. C'est-à-dire que j'essaye de plus en plus, parce que ça, je suis pas en poker face, mais disons que parfois la météo, oui, j'ai plusieurs météos par jour, et ensuite vient des moments de lâcher prise absolument vitaux. J'ai un besoin vital de scène et de son pour j'ai l'impression pour Alain Bachung disait quand il avait fini un album, c'est bon, j'ai descendu les poubelles.
Ouais. C'est marrant. Ouais. Il y avait aussi c'est Sartre qui disait quand c'est publié, c'est poubellisé.
Voilà.
Il y a un moment, ça sort quoi.
Voilà, c'est ça.
À ce micro, vendredi dernier, il y avait un philosophe, Fabrice Midal, qui a écrit un livre sur l'hypersensibilité, en disant que c'était un talent, et qu'au fond, la maladie, c'était plutôt d'être pas assez sensible, d'être trop sensible.
Oui.
Et votre album s'appelle Hyper.
Oui.
Et puis après, vous avez rajouté 5 titres, Hyper, Prolongation. Donc vous êtes hyper, mais hyper quoi ?
Je suis un peu hyper tout le temps, mais en fait, j'ai une forme d'hypersensibilité d'ordre de l'émotionnel, c'est-à-dire que je ressens assez fort les choses et je les vis tout le temps de manière de manière assez assez intense, disons. Et en fait, quand je cherchais un nom pour l'album, j'avais plein de noms et puis il y avait Hyper. Et j'en parlais avec mes équipes. On disait, ah, Hyper, ah ouais, voilà, c'est bien. Hyper, ça te va bien. Ça va bien pour un premier disque. Et c'est vrai que ça résumait bien un peu, ça cristallisait, disons, l'énergie avec laquelle j'avais fait ce disque et avec laquelle je vivais chaque instant. Voilà, chaque instant est important, disons, ça me permet du moins de valoriser chaque moment comme celui qu'on est en train de passer là.
Et c'est bien d'ailleurs ce qu'on voit dans ce clip dans la cuisine de votre père, je crois.
Ouais.
Vous faites des crêpes.
Ouais.
D'ailleurs, ce qui a été un de vos métiers, je crois.
Oui, j'ai vendu des glaces et puis il y avait des crêpes aussi.
Et donc, c'est la cuisine de votre père et puis on voit une énorme intensité en fait dans le fait de faire des crêpes. Nietzsche disait justement que le critère d'une vie réussie, c'est l'intensité. Mmh. Et en cela, il s'opposait au philosophe d'avant qui dit voilà, le critère d'une vie réussie, c'est la vertu, c'est la juste mesure, disaient les Grecs. Mmh. Nietzsche dit non, c'est l'intensité. Mais le problème, c'est que si on est tout le temps intense, bah, il n'y a plus d'intensité.
Ouais.
Comment vous faites avec ça ?
Il faut que je recharge les batteries, parfois. J'ai des moments j'ai besoin de très forte adrénaline, je crois. Et en fait, et du coup, j'ai beaucoup d'endorphines. C'est-à-dire que j'ai des montées comme ça, où je plane un peu. Et en fait, c'est les moments où il y en a un peu moins. C'est comme les lendemains de fête, ça peut arriver, ou les lendemains de gros matchs, ou de moments de mariage, de baptême. Les jours d'après, on a un peu le blues, quoi. Et dans ces moments-là, j'écoute beaucoup de musique et je reviens encore une fois sur mes bases et je n'hésite pas à rester. Bon, ça va paraître un peu glauque et tout, mais en vrai, je reste à la maison, quoi. Là, en ce moment, quand ça va pas bien, je me mets le Tour de France, je regarde un épisode de Columbo, je me mets sur les trucs que j'aime bien, j'écoute les disques qui me font du bien.
Voilà, d'ailleurs, votre premier titre un peu repéré, c'était Mélancolie FC, je crois.
Oui.
Ce qui évoquait aussi votre passé de joueur de foot. Vous avez fait beaucoup de sport.
Oui.
Du foot quasiment à un niveau professionnel, en fait.
Oui, à haut niveau amateur.
Voilà. Et est-ce que c'est la même énergie que vous déployez maintenant dans la chanson?
Il y a beaucoup de liens que, en fait, que pareil, en fait, que je réalise au fur et à mesure que j'avance, puisque j'apprends, évidemment, on apprend chaque jour. Et il y a de l'ordre du combat, ça c'est certain. Je vais chercher en moi, mais disons des valeurs moins pragmatiques aussi.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il y a des moments où, sur scène ou en studio, je sais vraiment plus où je suis, quoi. Donc j'oublie complètement la notion d'espace-temps et.
Alors que sur un terrain de foot, il vaut mieux pas l'oublier.
Oui, il vaut mieux pas l'oublier. Il y a quelque chose de. Il y a quand même un ordre des choses. Et ce que j'aime dans la musique et dans cette vie-là, c'est de les bousculer complètement, quoi.
Ouais. Donc c'est ça, vous oubliez davantage en chantant qu'en jouant au foot.
Ah oui.
Finalement, qu'est-ce qui a fait ce basculement ? Quand est-ce que vous avez quitté le foot avec ces ambitions ?
Je crois que c'était les moments où je me suis retrouvé devant mon ordinateur avec un logiciel qu'un copain m'avait piraté. Et là, j'ai découvert ce qu'on appelle la boucle. Donc c'est les musiques électroniques, hip-hop et tout. C'est des musiques où en fait tout est en boucle. Et là, une fois que j'ai découvert la boucle, j'ai perdu la notion du temps. Et dès lors où j'ai perdu la notion du temps, je me suis dit, c'est ça que je veux faire dans la vie, en fait.
Bye.
work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger, more than power, power, never, ever, after, work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger.
C'était évidemment les Daft Punk, ce duo aujourd'hui séparé, et le morceau Harder, Better, Faster, Stronger.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Hervé, la révélation masculine des dernières victoires de la musique. Nous parlons de cette énigme de l'élan vital, énigme ô combien philosophique qu'Hervé non seulement vit dans son corps, mais nous laisse aussi éprouver. Et justement, juste avant d'écouter Daft Punk, Hervé, vous parliez de la boucle. Cette oui. révélation... La boucle, donc c'est cette boucle dans la musique électronique, cette musique répétitive, même cette boucle dans le hip-hop. Et vous disiez, et je voudrais qu'on revienne dessus parce que c'est hallucinant, la découverte de la boucle, on pourrait presque dire de la musique répétitive,
ouais.
a été une révélation. Et notamment, vous avez fait aussi passer, pour résumer un peu, du foot à la musique.
Oui.
Parlez-nous un peu de ça. Qu'est-ce qui vous a fasciné dans ce qui se répète, en fait?
C'est la possibilité, je crois, de l'infini. En fait, c'était tant qu'il y avait de la place dans le disque dur, je pouvais créer. et on pouvait enregistrer autant qu'on voulait et des parties de son très courtes et les répéter, les découper, les répéter dans un ordre différent. Et c'est ce qu'on entendait dans le titre qui vient de passer, Faster Stronger. Il y a ce truc où avec une boucle de base. Elle évolue pendendant 3 minutes et c'est vraiment très 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 jouissif lorsqu'on ouais. a la main sur un sample comme ça et qu'on peut le répéter, le couper, le découper.
C'est fou. Ouais. Mais d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est fou aussi parce que ça nous dit quelque chose de la vie. C'est-à-dire que oui. la vie, ça se répète, mais ça se répète en fait jamais de la même façon.
Exactement. Ah oui, c'est exactement ça. Et aussi, ça montre aussi que des espaces-temps très courts. et des éléments finalement, c'est ce qu'on peut voir beaucoup dans l'artisanat ou même même dans n'importe quel métier, hein, dans l'enseignement, on peut voir que des détails peuvent faire évoluer. Un menuisier travaillera toujours avec je sais pas, avec du cerisier, admettons, et il travaillera jamais de la même façon. Ouais. Dans une fonderie, ça chauffera jamais pareil.
Et ce qui est fou, c'est que d'une certaine manière, il faut accepter la répétition, mais qui va préparer la oui. sortie de la répétition.
Oui.
C'est ça la musique électronique, en fait.
Oui, c'est ça. Et surtout, il y a quelque chose d'universel là-dedans, j'ai l'impression, que j'aime beaucoup. Chez les Daft Punk, par exemple, ce qu'on disait, les paroles sont très simples. C'est de l'ordre de la disco, j'ai l'impression. Voilà, des paroles très très simples, que tout le monde peut comprendre. C'est vrai que c'est tellement accessible, et en même temps, personne ne sait comment ils ont atteint ce niveau de production, de son.
C'est fou.
Et hein. C'est une facilité déconcertante.
Ça, on est tellement nombreux à avoir reçu ça comme une évidence. C'est-à-dire, en fait, il y a un truc nouveau qui arrive, qui est fou,
oui.
qui nous rassemble, d'ailleurs, par-delà les différences. Mm. C'est aussi ça, l'énergie vitale, c'est d'être ensemble sans même comprendre comment.
Oui.
Et, et c'est vrai qu'on est toute une génération à avoir été comme ça happé par ce mouvement.
Mm-hmm.
Et je parlais aussi de ça avec le chanteur Raphaël il y a quelques jours qui était à votre micro.
Ouais.
Et lui, il fait un peu ça, mais avec des paroles. C'est-à-dire que parfois, il a une chanson, il a une seule phrase,
ouais.
et elle revient tout le temps.
Oui.
Mais c'est un peu le même principe en fait.
Complètement.
C'est quelque chose revient et finalement, on entend grâce à cette répétition comme une. C'est un nom là, une. Un truc dans les j'ai oublié quoi cette espèce de chant, une psalmodie ou une un truc qui revient et puis
comme un mantra en fait hein.
Ouais, comme un mantra.
Ouais, ça revient comme ça. Moi j'écris beaucoup les deuxièmes couplets comme ça. C'est-à-dire que j'ai le premier couplet et souvent je fais le deuxième couplet. Mon défi c'est de le faire dans le train en rentrant de Bretagne. Je me dis allez, tu fais le deuxième couplet avant Montparnasse. Et je répète, en fait, ma façon de travailler, c'est que je copie le premier couplet, je colle en mettant deuxième couplet, et je modifie un petit peu quelques jeux de mots, et voilà.
Réveille-moi si on peut rêver d'un monde meilleur. J'ai pas tué l'espoir qui brûle à l'intérieur. Réveille-moi si on peut rêver, rêver d'un monde meilleur.
Alors là, on voit bien votre sens des paroles. Donc dans votre cas, ce qui est particulier, c'est que c'est il y a un côté électro à la Daft Punk, mais ou d'autres Justice, voilà. Mm-hmm. Mais sur les paroles, quand même, c'est très écrit. Vous lâchez et quelque part vous refusez aussi. Vous pourriez aussi faire des chansons avec une seule phrase ou deux. Enfin,
oui.
Vous le faites pas. Il y a une vraie narration.
Ben j'essaye. En fait, je m'amuse beaucoup à écrire. Paradoxalement, je n'ai jamais lu de livres en entier. Je n'ai jamais été pris par la littérature. Et en fait, j'ai un goût pour les jeux de mots et écrire. Vraiment, ça m'éclate. Et que j'ai découvert, en fait, il y a quelques années, je suis venu au chant par l'écriture.
Ouais.
C'est-à-dire que je faisais des productions, des compositions. Et ensuite, j'ai eu besoin d'écrire. C'est venu vraiment de très loin. Ça aussi, c'est pas tellement explicable. C'est-à-dire pourquoi à un moment, on décide d'écrire et puis on décide de chanter. Et puis ça devient un besoin, que ça fonctionne ou non. Ça devient une raison de vivre, finalement. Et je m'éclate à écrire, en fait.
Et c'est d'autant plus troublant qu'on ait ce besoin des mots qu'on n'a pas beaucoup lu.
Voilà. Oui.
Booba a été dans votre cas.
Oui.
Booba, ça m'avait surpris quand il avait dit ça. Ouais. Je trouve que c'est un incroyable parolier. Il écrit des choses très belles.
Oui.
Et puis un jour, il a dit, mais moi, j'ai jamais lu de livre.
Oui.
Un peu comme vous. Alors, je voudrais pas que ce soit une invitation à ne pas lire de livre, parce que je pense que vous êtes des cas particuliers.
Oui.
La plupart du temps, cet amour des mots ne vient pas, en fait, quand on n'a pas lu de livre.
Oui, je crois que c'est, j'ai l'impression que c'est les disons que c'est l'écoute de l'autre Et je crois que c'est l'écoute en général. C'est-à-dire que j'ai l'impression que comme si on avait deux paraboles ouais. comme ça qui captaient certains signaux. Et c'est des formes de sensibilité en soi.
Ouais. Alors vous avez beaucoup écouté Bachung dans votre enfance.
Oui.
Il se trouve que Bachung, contrairement à vous, était assez rarement son propre parolier. Il avait plutôt des paroliers. D'ailleurs, il avait cette chose incroyable. Certaines chansons sont le résultat de plusieurs paroliers qui lui font une proposition et il les mélange, il les mixe jusqu'à quelque chose d'elliptique. Parfois, il lâche un peu la question du sens. Mais c'est quand même quelqu'un qui lisait beaucoup, qui était très, très imprégné de littérature, de poésie mm-hmm. et qui, du coup, laissait tout ça résonner. Non, vous faites vos paroles.
Oui.
Tout en étant, dans une résonance assez, on entend Bachung quand même.
Ouais. Et je crois que, on ressemble facilement à ce qu'on a le plus écouté ou vu.
C'est l'éponge encore.
Encore une fois, c'est l'éponge. C'est-à-dire, c'est l'artiste que j'ai le plus écouté. Et quand je me suis mis à chanter, il y avait beaucoup de souffle dans ma voix, etc. La voix n'a pas changé. Et évidemment, c'était Bachungien. Évidemment, il y avait tout ce que j'avais beaucoup écouté, même du Dire Straits. Finalement, il y avait ça. Mais Bachung était là.
Et tous vos parents écoutaient Bachung?
Oui, pas
parce
mal.
Que votre père, on n'a pas eu le temps de dire que votre père était chanteur. Enfin, est chanteur, pardon.
Mon père, il joue de la bombarde.
Ah, pardon, il joue de la musique.
Quoi. Ouais, il joue depuis quelques années dans le baguette de Tréguier, que je vais inviter sur scène aux Vieilles Charrues demain.
Oui, donc j'en profite pour dire que vous êtes demain soir aux Vieilles Charrues à Carex.
Ouais, c'est ça, exactement. Je serai à Carex demain. Et ouais, il y a eu les mots tout de suite et Higelin beaucoup. En fait, finalement, il y a eu beaucoup l'album Tombé du ciel.
Ouais.
Et donc forcément, j'ai entendu beaucoup de liberté, de fantaisie. Jacques Higelin, c'était quand même un auteur. Assez fantastique dans les deux sens du terme, quoi.
Je crois que c'était votre premier concert, hein, Jacques Higelin, sur les épaules de votre père.
Oui, c'est en tout cas c'est les photos que j'ai, c'est de fête de l'UMA, voilà. Beaucoup de quand je voyais mon papa, on allait beaucoup spectacle de rue, Higelin, etc. Et ça doit être un des seuls concerts de ma maman aussi.
Ah oui.
Higelin au Grand Rex. Et dès lors où je me suis dit, je vais faire mon premier concert. Et ma mère tout de suite, c'est Higelin au Grand Rex, Higelin sur scène. Oh, Higelin, ça pouvait durer des heures. Et en fait, son fils, sa fille aussi. C'est vrai qu'il y a ce truc où Higelin te prend la main. Tu sais pas où tu vas. Mais tu sais pas pourquoi tu la serres si fort cette main, mais tu la serres cette main.
Ouais,
c'est vrai que les beaux moments de vie, c'est un peu ça, les rencontres aussi. Ces moments où il se passe quelque chose avec l'autre, où il y a de l'électricité dans l'air. Et puis d'un coup, on sait pas pourquoi on se tape dans la main, mais on se tape dans la main.
En tout cas, il y avait quand même une éducation aux mots, malgré tout.
Oui.
Oui, c'est de la chanson française.
Ah oui.
Donc peut-être pas de livres, mais quand même ce rapport à la littérature. C'est de la littérature, en fait.
Hein. Ah oui.
Voilà, Bachung, Higelin.
Ah oui, c'est ça. C'est passé quand même pas mal dans les oreilles. J'ai pas beaucoup lu.
C'est ça. D'ailleurs, vous avez été viré de l'école, je crois.
Oui, je suis pas tellement allé à l'école non plus.
Et viré pourquoi?
Pour absentéisme, parce que j'y allais pas dès la première. En fait, j'avais compris quelque part que je préférais aller travailler de mes mains et puis faire de la musique à côté. Ça m'allait déjà bien comme vie. Et en fait, dès 16 ans, j'ai travaillé.
Vous faisiez quoi ?
J'ai fait du ménage, de la remise en état, du bâtiment. Ensuite, j'ai vendu des glaces, j'ai vendu des chaussures pour femmes. J'ai nettoyé, j'ai fait de la remise en état de bâtiment aussi au Kärcher. Enfin, voilà.
Ouais.
Je me suis bien amusé, mais ça m'allait bien comme vie. Je savais que...
Vous vouliez faire de la musique déjà?
Voilà, je voulais en faire le plus possible. Parce que ce moment en fait, de création, moi, que j'appelle le feu sacré. Mmh. C'est-à-dire ce moment-là, ça peut durer 20 minutes ou une minute, mais ce moment-là d'abandon, je savais que c'était celui que je voulais, le rendez-vous que je voulais retrouver le plus dans ma vie.
Alors Hervé, il y a une citation que vous adorez, paraît-il, une phrase de Belmondo dans Un bout de souffle. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Ouais, c'est quand même vachement bien. Ouais, c'est quand même vachement bien. Ouais.
Ça, c'est une bonne séquence. Phrase de Sylvie.
Ah oui, je crois. Oui, je crois. J'ai l'impression... il y a ce parti pris, disons que moi c'est ce que j'ai fait, je dis pas que tout le monde doit le faire, évidemment je donne vraiment de leçons à personne, mais de s'écouter et de se dire voilà, moi j'aime bien le ping-pong, ou la danse, j'ai envie d'en faire un max dans ma vie, et ben voilà, je vais tout tourner autour de ça, et puis je vais m'amuser dans cette vie-là, et puis et j'ai l'impression que tout ce qu'on aime, on fait bien ce qu'on aime, et les passions nous font oublier la notion du temps, et la vie passe vite, et tous les anciens que je croise qui ont eu 1000 vies et qui ne l'ont pas vu passer, et ben je les envie.
Et ben justement, on va écouter une chanson de vous, Rodéo.
Visage couleur béton, je porte le blouson que t'aimais bien sûrement. Je porte mes prisons, j'ai gardé espoir. Qu'est plus tes fantômes au parloir. Tout ce que j'entends, c'est ton sourire abstrait. T'as laissé derrière toi mardi dernier. Cette vie, c'est pâle, c'est fade. Sans toi, je vaux pas mieux qu'un homme. Je vaux pas mieux que ça. Je veux pas mieux.
C'était Hervé, justement, Rodéo.
Sous le soleil de Platon.
Il faut intéresser le jeune. N'oublions pas qu'il a 18 ans, il est plein d'une énergie débordante, qui a besoin à la fois d'être canalisé, mais libéré en même temps. Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Doit-il aborder l'avenir en lui tournant le dos? Le jeune
Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Hervé en essayant de questionner l'énigme de l'énergie vitale, cette espèce de façon de se tourner vers l'avenir. Tiens d'ailleurs, si je vous disais, est-ce que l'énergie vitale, c'est d'être pleinement présent ou est-ce que c'est de se jeter vers l'avenir?
Les deux. Les deux, mon capitaine. Surtout le passé. En fait, moi, j'ai l'impression, en tout cas, que dès lors que c'est passé, quoi.
C'est donc passé, on ne ressasse c'est... pas, quoi.
Non.
Vous y arrivez, vous, à pas ressasser, moi, j'ai du mal.
Oui, j'ai évidemment du mal, mais j'essaye, en tout cas. Ouais, j'essaye. Ouais.
Vous nous avez raconté donc votre parcours, enfin un peu. Vous êtes autodidacte. Mmh. Vous avez quitté l'école, mais vous avez quand même passé, je précise pour rassurer quelques parents, le bac en candidat libre et vous l'avez eu.
Oui.
Donc quand même, c'est-à-dire que c'est finalement un parcours quand même de bosseur parce que vous faites plein de petits boulots, vous faites de la musique et vous passez le bac en candidat libre et vous l'avez.
Oui, ce n'est que du travail. Ouais, moi, j'aime beaucoup travailler, je crois. Mon grand-père a été maçon, j'ai beaucoup d'artisans dans ma famille. Et en fait, moi, j'aime beaucoup travailler, tout le temps. Et avec mes mains, faire de la musique, j'aime bien porter des trucs. Ouais, j'aime bien.
C'est ça qui vous donne la confiance ?
Ça me fait... ça me permet d'avoir l'impression de bâtir. J'ai l'impression que c'est une notion là dans la musique. Moi, je viens pas forcément d'une famille de musiciens. Quand je me suis lancé, j'avais tout le soutien de ma maman, etc. Mais c'était vraiment le grand bain quand on connaissait personne. Et comme on dit, il y a ce truc où je pose des pierres comme ça, et puis au fur et à mesure, je bâtis, je me construis en même temps. Et à la fois dans un métier où je m'abandonne très souvent.
Ouais. Et quand on vous écoute, avec ce sens comme ça de pierre par pierre, bâtir, construire, travailler de ses mains aussi.
Oui.
Même la musique, c'est aussi un travail, il y a une partie manuelle en fait.
Ah oui, c'est de l'artisanat. Ouais.
Et on comprend ce qui manque tant à beaucoup, par exemple, de cadres, en fait, qui vont faire une dépression ou un burn-out parce qu'ils n'ont pas ce travail de la matière.
Ah, tout à fait.
Parce qu'ils vont de réunion en réunion, ils balancent des mails, ils répondent à des mails, et puis au fond, ils n'ont pas. Ça rassure, en fait, de travailler en ce sens-là, quoi.
Oui, en fait, il y a la notion de résultat qui est tout à fait relative, mais disons que lorsqu'on a fait, je sais pas moi, de l'enduit, peu importe, on a monté un mur, ou qu'on a fait un morceau, ou qu'on a fait quelque chose, ou peu importe, qu'on a récolté, ou qu'on a transmis un savoir et qu'on revoit ensuite, voilà, il y a cette notion où on voit, ah tiens, c'est là, et c'est là. Et moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est qu'en plus, j'ai la feuille blanche. En plus quand on fait un enduit, il y a une recette. Ouais. On l'a fait, un cuisinier.
Les crêpes aussi.
Voilà, les crêpes, c'est pareil. Et donc, c'est ça, j'ai l'impression parfois qu'il manque dans cette société, c'est qu'on est formé à des choses pas tellement précises en fait. On peut faire de la communication, management. Moi, je viens de la génération, il y a eu les premières écoles privées qui concurrençaient finalement les facultés et le service public. Et c'est à ce moment où l'enseignement, où en fait on est formé à quelque chose d'assez abstrait dans des sociétés au sens entreprise parfois, où c'est un peu abstrait, quoi.
Bah oui. Alors je vais vous, même si vous ne lisez pas beaucoup, vous recommander un livre, et j'en profite pour le recommander à tous les auditeurs, qui est un livre écrit par un philosophe, mais figurez-vous qu'il a lâché son boulot, un boulot un peu abstrait dans un think tank, pour reprendre son premier métier, à savoir mécanicien. Et ça s'appelle « Éloge du carburateur ».
Trop bien.
Matthew Crawford, « Éloge du carburateur », c'est un livre magnifique, où justement il nous montre qu'en fait, il avait perdu la confiance, perdu l'amour de la vie, à force de faire que discuter, bavarder, assister à des réunions, envoyer des mails, et puis par contre, quel trip. Quand on répare un carburateur, c'est très technique, c'est très dur. Et qu'est-ce qu'on voit quand on rend la moto réparée? Un propriétaire, un motard dont la moto est en panne, il est en souffrance. Eh ben, on voit dans ses yeux qu'il dit merci, quoi. Et c'est, je pense, pareil quand vous faites une chanson, que vous êtes en concert ou que vous avez fini un enduit.
C'est pareil.
En fait, il faut voir un résultat.
Oui, ah oui.
Et c'est ça qui donne confiance, et c'est ça, vous l'avez très bien diagnostiqué, c'est ça dont la société souffre.
C'est un savoir-faire, c'est-à-dire que des étapes, et on se construit beaucoup, c'est-à-dire que souvent, on a ça dans le quotidien, et on a qui aiment bien faire le ménage, par exemple. Ouais. pour ouais, parce qu'il se vide la tête, ou le jardin, ou qu'il aime bien aller marcher, ou qu'il aime bien. J'ai l'impression que on a de plus en plus besoin de ça, quoi.
Je vais vous proposer maintenant, Hervé, pour essayer de vous rencontrer autrement, un petit quiz. Alors Hervé, joie ou bonheur ?
La joie.
Pourquoi ?
J'entendais une actrice, Karine Viard, qui disait j'ai le goût de la joie comme une politesse envers l'autre.
Pas mal. Hein. Mm. Peut-être aussi de la joie quand le bonheur n'est pas possible.
Voilà.
Tristesse ou mélancolie ?
La mélancolie.
Désir ou pulsion ?
Pulsion.
Ouais, quand même. Mm. Manque ou plénitude ?
Manque.
Daft Punk ou Bachung ?
Christophe.
Ah, pas mal. Plus dur maintenant. Gabi au Gabi ouais. Ou Osée Joséphine ?
Ah, Gabi.
Ah oui, pourquoi ?
Ah, parce que au milieu des algues et des coraux, la liberté du texte, complètement folle. Ouais,
c'est de la poésie pure.
Ah oui.
Orelsan ou Booba ?
Orelsan, je dirais.
Ouais, pourquoi ?
Parce qu'il a quelque chose, il a une écriture très factuelle. C'est-à-dire qu'il arrive à poser des décors, raconter des histoires. Et en fait, tout le monde comprend. Et j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup sa façon d'écrire à lui pour le coup, qui est peut-être un peu moins vaporeuse que certains auteurs que j'aime, mais qui est très, qui pose des décors comme peut le faire par exemple Stromae par exemple.
Ouais, ouais.
Il pose un décor, t'es tout de suite dedans.
C'est vrai. Et vous avez vu son film d'Orelsan comment?
Ouais, comment c'est loin.
Ouais, comment c'est loin.
Ouais, vachement bien. Ouais, ça ressemblait pas mal à ce que je vivais finalement.
Ouais, c'est pour ça que je vous pose la question. J'imagine, c'est ce que j'imagine.
Ouais. Ouais,
pour qu'on raconte aux auditeurs, c'est un film, c'est deux mecs qui font de la musique et en fait ils sont attendus par un producteur et puis ils n'arrivent pas à faire leur morceau, ils font que glander, ils font que remettre au lendemain et ils sont sympas et puis à un moment ils font le morceau quoi.
Voilà, c'est ça.
C'était votre vie ?
Oui, en fait, moi j'ai travaillé dans les hôtels aussi.
La nuit, bah, c'est le cas dans le film. Ouais.
Ouais, voilà. Et là, je travaillais le matin et je faisais les chambres d'hôtel, je nettoyais les chambres d'hôtel. J'avais toujours un écouteur comme ça. Et je m'étais dit, super plan. Comme ça, je fais 6h, 14h et puis 14h, 20h, je fais de la musique. Tu parles.
Merci beaucoup, Hervé. On va écouter le premier jour du reste de ma vie, un petit extrait.
J'ai du mal à vivre dans cette mauvaise vie qui fait. J'ai du mal à suivre sans cette mélodie qui fait na 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 qui fait na 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 na.
Je crois que le message est clair, hein. J'ai du mal à vivre sans cette mélodie qui fait.
Ouais.
Donc c'est un peu votre vie.
Ah oui, complètement. Je suis bon que sur un faux départ dedans. J'ai pas si brisé ce rêve qui. Bon, enfin voilà, il y a tout ce truc de là où je me suis beaucoup amusé. Et en fait, j'avais ce fantasme de faire un titre un peu à la Happy Mondays, un peu Manchester et un peu loose en fait, qui est aussi me caractérise aussi quelque part parce que voilà, c'était ces moments où en fait tu te sens un peu inadapté et tout quoi.
Ouais. Si on essaye de voir un peu de quoi vous êtes le mélange, donc il y a la Bretagne,
oui,
il y a l'île de France, Fontenay, je crois,
ouais, exactement,
et puis il y a Manchester,
ouais,
ça fait un petit mélange marrant,
ben ouais, tout ça à l'ouest, il y a beaucoup le cœur à l'ouest hein, quand même.
Et ce côté autodidacte, on voit la liberté que ça vous a donné. Ah, est-ce que parfois ça vous a pas quand même fermé des portes, freiné ? Est-ce qu'il y a pas des choses que non ?
Et j'ai l'impression que c'est par nature en fait que j'ai fait ça. J'ai fait de la musique. C'est exactement ça. Ça me donne énormément de liberté. Je soupçonnais un côté contrôle fric. Et en fait, pas du tout. C'est une déformation déformation professionnelle. Il y a ce truc où, je faisais les batteries, les basses, les claviers. Et puis à un moment, je me suis mis à écrire, je me suis mis à chanter. Puis j'ai chanté sur ces productions. Donc finalement, ça me permet de partir avec un sac à dos, mon clavier, une enceinte, et puis de pouvoir revenir avec un disque.
Quel rapport vous avez à votre voix ? Alors je précise ma question. Donc vous avez beaucoup beaucoup de succès. On va peut-être en parler si on a le temps. J'ai remarqué qu'il y a quelques personnes qui n'aiment pas votre voix, qui comprennent pas cette voix en fait.
Oui.
Moi j'adore, elle est particulière. Vous avez mis du temps à l'accepter, vous l'avez tout de suite aimée.
Ah non, j'ai mis beaucoup de temps. Je sais pas si je l'ai encore accepté. Disons qu'il a fallu tout de suite que j'accepte que c'était pas ma voix parlée. Ouais. Donc comme si c'était quelque part pas ma voix et en même temps peut-être ma vraie voix. Ouais. Et donc j'ai un rapport à ma voix assez particulier. Le seul truc que je sais, c'est que je ne peux pas la changer. Elle est comme ça. Donc je vis avec. Certains l'aiment, d'autres moins.
Il y a quand même beaucoup de monde qui l'aime.
Ouais, mais c'est ça. Mais je trouve ça sain. Je sais pas si j'aimerais tant entendre un chanteur chanter comme ça, moi.
Ouais. J'en sais pas. Non, c'est particulier. Vous avez l'impression que quand même quelque chose apparaît de vous dans cette voix qui n'est pas là le reste du temps.
Oui. Oui, parce que j'ai beaucoup, les mots viennent souvent en chantant finalement, et finalement la définition de ces mots, ce en quoi ces mots résonnent, parfois je le découvre, parfois 2 mois après ou 3 mois, en disant ah oui mais cette phrase en fait ça fait
vous
écho
avez un exemple,
à ça de ma vie. Un exemple que j'avais, oui, de situations surtout parfois très intimes, c'est-à-dire des phrases qui peuvent paraître complètement anodines et qui pour moi résonnent avec une période de ma vie que pour moi ça frôle l'impudeur, alors que certaines phrases qui peuvent être plus mélancoliques ou avoir l'air du moins plus introspectives, pour moi je les écris comme des jeux, quoi.
Me reviennent en vous écoutant certaines de vos paroles, notamment dans la chanson Fureur de vivre.
Oui.
Très belle chanson avec une écriture très précise. Vous dites des choses un peu bizarres. J'attends la fureur de vivre. Mm. Je fredonne la fureur de vivre. Donc, tout un champ lexical comme ça où d'un côté il y a la fureur de vivre avec le cliché. Et puis en fait, de l'autre côté, bah non, c'est de l'attente, c'est du murmure.
Oui.
C'est beau. Ça vous est venu comment?
J'avais ce gimmick de je tue le temps qui revenait et je relance la machine à fantasmes, c'est-à-dire ce moment de boucle, encore une fois, de vie où je tourne un peu en rond finalement, et parfois je tourne en rond malgré une hyperactivité, ce qui est assez paradoxal, c'est-à-dire que le cerveau bug comme ça arrive souvent à chacun, et au final en faisant plein de trucs, et là c'était un quotidien où ça allait encore, où j'ai des moments justement dans mes solitudes ou de mes prisons, au moment où c'est un peu essoré, où j'essaye d'essorer, du moins ça tourne souvent.
Alors Hervé, on a beaucoup parlé de musique répétitive, de boucles. La thèse de Nietzsche peut être intéressante à ce sujet. Nietzsche pense que tout revient toujours et que la vérité du monde, c'est l'éternel retour. Et d'ailleurs, ça voudrait dire aussi que le bon comme le mauvais vont revenir toujours, et que nous, les enfants du monde judéo-chrétien, on est habitués à penser les choses selon une linéarité. Ouais. Il y aurait un début et une fin, mais il faudrait retrouver, nous propose Nietzsche, la sagesse des Grecs anciens, des Grecs tragiques, pour qui tout revient toujours.
Mm-hmm.
Et dans ce cas-là, c'est peut-être ça que nous dit la boucle, ça que nous dit la musique répétitive.
Disons que j'ai l'impression qu'on revient facilement à nos fondamentaux. Vulgairement, c'est-à-dire au final, j'aime beaucoup l'inquiétude des anciens qui disent mais dans ce monde avec ces écrans, la lumière bleue, tout ça qui va trop, il y a toujours eu ce désir de s'accrocher finalement à ce qu'on a le plus connu ou au passé, etc., en disant on n'a jamais cessé d'aimer, on n'a jamais cessé en tout cas tant qu'on a pu, de manger, de se réjouir des choses finalement les plus simples, hein, et ça fait un petit moment qu'elles sont là, ces choses-là.
Et après, Nietzsche, du coup, va plus loin en disant, voilà, maintenant, quand vous vivez un instant, le critère de l'intensité fait que vous ne devez vouloir vivre que les instants dont vous estimez que leur qualité, leur intensité, fait qu'ils mériteraient de revenir éternellement. Du coup, c'est un élément de sélection de sa vie. Là, par exemple, on est en train de parler.
Oui.
Si ça vous plaît, si ça vous plaît au point que ça puisse revenir éternellement, alors c'est bien. Si c'est pas le cas, vous devez partir tout de suite du studio et arrêter les entretiens.
Il est absolument impossible de vivre comme ça, comme je le dis.
Exactement. C'est exactement
c'est
là où je voulais revenir.
Beau, quoi.
C'est exactement cette petite philosophie de l'intensité que je voulais qu'on échange ensemble. C'est qu'en fait, ça n'est pas possible.
Oui.
Et donc, Nietzsche nous propose un critère, au fond, de vie bonne qui est intenable.
Ouais. C'est un parti pris, encore une fois. Ouais.
Alors, avant que j'oublie, vous êtes en tournée, un peu tout le temps, partout. Ouais. Donc, demain soir à Carré, au Festival des Vieilles Charrues, le 16 juillet, Festival Décibule à Neuve-Église, le 29 juillet, Festival Grande Marée à Julouville, le 30 juillet, Festival au Pont du Roc à Malestroit, et puis plein de dates, jusqu'à l'Olympia, le 25 octobre. Question rapide, un peu cliché, mais c'est quand même intéressant d'avoir votre réponse.
Oui.
Énorme succès, qui est venu comme ça, ça fait quoi ?
Oh ben, c'est beaucoup de gratitude, hein. Et en même temps, j'avais pas le choix, mais ce qui me plaît bien, c'est que l'album est sorti il y a un an, et on n'a pas tourné, et on a fait les clips avec le téléphone, et les pochettes avec le téléphone, bon pas la pochette du disque, mais les pochettes des singles avec le téléphone, on a beaucoup bricolé. Donc finalement, je suis quand même au niveau de la mer, quoi.
Bravo, merci beaucoup pour ce bricolage, Hervé. Et je vais, pour vous remercier d'être venu ce matin sous le soleil de Platon, essayer de résumer pour nos auditeurs votre philosophie de la vie. Eh bien, justement, figurez-vous, c'est une philosophie du bricolage au sens où Lévi-Strauss disait que la vraie vie, c'est de bricoler. C'est une philosophie de l'artisanat, avec cette joie de découvrir progressivement l'effet de son action sur le réel, l'effet de ses chansons dans le regard et le cœur des gens, comme on fait de l'enduit sur un mur, comme on fait des crêpes, finalement. Il y a, dans votre philosophie, une incroyable humilité au fond, parce que c'est ça l'humilité, c'est d'avoir les mains, un humus, c'est, ça veut dire le terrain, le terreau. Et en même temps, eh bien, à partir de ça, de ce sol, de ce lien, de cette relation, quelque chose qui décolle, voilà, cette espèce de pure énergie qu'on a sentie. Vous avez reconnu vous-même qu'elle était plus pulsionnelle que du désir, mais j'aurais envie de dire quand même une pulsion sublimée dans la mélodie, dans des très belles paroles. Et je voudrais conclure en répétant des paroles que j'adore. On se fait si bien du mal, on le fait si bien. Je crois que ça devient animal. Pourquoi tu te fais la mal quand je te veux du bien ? Quand je te fais du mal, tu reviens. Dis-moi si je te fais mal quand je te fais du bien. Bravo et merci beaucoup Hervé. Hervé le sourd. Pas sûr du tout à la beauté du monde, heureusement. Cette émission a été réalisée par François Audouin, avec à la technique Fabrice Desmaz, à la programmation musicale Valentine Chedebois. Illustration sonore Romain Couturier. Elle a été préparée par Estelle Gap et Aurore Juvenel. Quant à moi, je vous retrouve tous les matins à 10h exactement sous le soleil de Platon dans la caverne de France Inter.